Les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Audrey Pinchot, un gros bonjour.
Maxime Larouche, un gros bonjour.
T'avais hâte de recevoir notre invité de ce matin.
Bien, c'est que ça fait quand même des mois qu'on en parle, toi et moi, qu'on cherche quelqu'un qui peut venir nous parler du sujet, puis c'est touché des fois pour mille et une raisons. Mais on a quelqu'un ce matin qui a accepté de venir nous parler du processus d'adoption avec la DPJ. Pierre-Luc Rivrain, qui avec son conjoint a passé à travers ce processus-là dans les dernières années, devenu famille d'accueil en 2019. En avril 2019, après 9 mois d'entrevue de paperasse et compagnie. Ensuite, bon, la petite qui avait été placée chez eux est retournée dans sa famille avec ses proches et ils ont entamé un deuxième processus en octobre 2019 qui a mené à l'adoption de leur petite en mars cette année. Donc, officiellement, on peut dire qu'ils sont parents de leur petite fille et ils ont été famille d'accueil en tout environ 7 ans. Puis, les démarches d'adoption, c'est difficile, c'est long, ça prend de la patience. Puis en même temps, je dis ça, c'est la perception qu'on a, mais est-ce que c'est réellement ça, tu sais? Puis est-ce que c'est la même chose d'adopter ici versus adopter un enfant d'ailleurs dans le monde?
Parce qu'on entend souvent que c'est plus simple ailleurs qu'au
qu'ici.
Québec, ce qui fait comme aucun sens, a priori.
Pas tant de sens, effectivement. Donc, pour en parler ce matin, bien, on va prendre le temps avec Pierre-Luc. Bienvenue dans l'Open Mic. Félicitations, premièrement.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation aussi.
Bien, écoute, c'est surtout un merci à toi de te prêter au jeu parce qu'il y en a tellement des questions. Avant tout, j'ai comme le goût qu'on profite du fait que tu es là pour parler du volet famille d'accueil. Pourquoi on veut devenir famille d'accueil?
Bien, la famille d'accueil régulière, c'est vraiment important de... Il y a comme 3 types de façons d'adopter au Québec. Puis, quand on parle de famille d'accueil, il y a vraiment 2 types de famille d'accueil. Il y a la famille d'accueil régulière qui, elle, est pour donner un coup de main. C'est comme, on peut dire, temporaire. Là. C'est ceux-là, c'est les histoires qu'on entend. Ils sont débarqués en pleine nuit avec un bébé, ils sont venus me le porter, puis il faut que je m'en occupe. Puis,
ouais.
Ensuite, il y a la banque mixte. Nous, c'était ça notre processus, qui, dans le fond, c'est un... les enfants qui sont pris en charge par la DPJ, mais qui ont eu plus de chances de rester dans le système longtemps, dans le fond, de finalement pouvoir être adopté.
Okay.
Je me rappelle quand on avait fait nos recherches, Maxime puis moi, c'était 95% des enfants depuis le début des banques mixtes qui restaient dans le milieu.
Qui est adopté.
Quand même un pourcentage...
Puis, tu sais, je lisais un peu le résumé de votre histoire, là. Famille d'accueil en avril 2019, avant d'accueillir votre petite fille, finalement, en octobre 2019. La première jeune fille que vous avez eue, que je ne sais pas trop comment le dire, là, les bons termes,
oui,
mais que
oui.
Vous vouliez, je vais le dire comme
oui.
Ça, pour adopter, elle est finalement retournée dans sa famille avec ses proches. Comment on gère ça? Parce que moi, j'ai l'impression que j'aurais le cœur brisé. T'sais, si tu passes par la banque mixte, c'est que j'imagine que dans ta tête, ça va devenir ton enfant éventuellement, là.
Bien, c'est comme... c'est un bon exemple de paperasse puis de bureaucratie. Dans le fond, la petite fille, je reste dans la confidentialité, mais il y avait beaucoup, beaucoup de chances qu'elle reste avec nous. Mais elle a été placée chez nous d'urgence, comme si on était une famille d'accueil régulière.
OK.
En attendant le tribunal qui allait mettre son placement officiel pour 1 an. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'entourage qui pouvait s'occuper de l'enfant. Donc là, c'est
puis
pour
on
ça.
On priorise
que...
ça.
Oui, puis c'est correct. Puis, tu sais, nous, on est vraiment contents. Là, sur le coup, je me rappelle encore, moi, Maxime, ma belle-mère qui pleure, les intervenantes qui pleurent, qui reprennent le bébé. Mais nous, ça nous a juste préparé pour vrai à être plus prêts pour quand on a eu notre deuxième placement. Tu sais, c'est pas tout le monde qui devient. Ben, en fait, c'est personne pratiquement qui devient parent. Qui se dit « Hey, j'aurais eu besoin de temps pour m'ajuster » puis qui recommence une deuxième fois.
Parce que vous, le plan était clair. Là. C'était vraiment une adoption qu'on voulait à long terme. Là. Il n'y avait pas d'autre option pour vous. Là.
Non, c'est ça. Eux, ils nous ont vraiment dit « Ah, c'est sûr. » Il y avait d'autres enfants connus puis tout ça. Puis c'était comme certain qu'elle allait rester avec nous. C'était vraiment inattendu. Puis c'est pour ça, je pense, que ça a comme vraiment choqué les intervenantes aussi parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ça a été un revirement. Là. Nous, ça a été 1 mois... vraiment intensif, puis c'est ça. Mais maintenant, avec du recul, je peux dire qu'on est content que ça soit passé, puis ça nous a juste permis d'être des meilleurs parents.
Drôle de question, mais ensuite de ça, quand tu reçois la deuxième petite fille dans ta famille, est-ce que tu as un peu plus de recul, tu t'attaches moins, t'attends, comment on gère ça? Parce que là, tu as quand même perdu un enfant une fois, là.
C'est sûr qu'on était un peu sur le frein, mais en fait, la DPJ, comment ça fonctionne, quand ils placent les enfants, c'est souvent les mêmes personnes qui s'occupent de nos dossiers. Mm. Donc là, la personne très gentille qui m'a rappelé pour me proposer le deuxième placement, elle m'a vraiment dit, là, les étapes ont été faites comme il faut, je ne vous referai pas le coup deux fois, il y a vraiment beaucoup de chance. Elle m'a expliqué les étapes qui ont été faites avant qu'ils placent, je peux dire son nom, avant qu'ils placent Charlie chez nous. Donc, tu sais, elle voulait vraiment être certaine, mais tu sais, on était un peu sur le frein.
Parce que t'étais pas sûr encore, tu sais, elle avait beau vous dire que toutes les étapes ont été faites, t'étais encore dans la catégorie où c'est pas certain, là, c'est pas officiel.
Non, c'est ça. Mais là, on avait franchi le placement d'urgence, puis là, on était à un placement, dans le fond, étant donné que quand Charlie, on l'a eu, était plus jeune. En bas de 2 ans, l'enfant, il doit être placé 1 an en famille d'accueil pour donner la chance aux parents de se réhabiliter. Ce qui fait qu'on avait franchi cette étape-là, donc on savait qu'on l'avait pour au moins 1 an.
OK.
Ça, c'était certain.
Comment l'enfant... Elle avait quel âge? Moins de 2 ans quand vous l'avez?
3 mois.
Trois mois, mon Dieu Seigneur. J'allais dire, comment un enfant réagit? Mais à 3 mois, j'imagine que tu ne te rends pas compte de grand-chose. As-tu bien été les premiers temps avec elle?
Oui, super bien. En fait, Charlie a été placée avant, était placée dans une autre famille d'accueil d'urgence. Puis eux, c'était leur 80e bébé. Là.
Oh,
quand
mon
je
Dieu,
dis que c'est okay, des okay, familles okay. d'accueil régulières, tu sais, eux...
Ils donnent Charlie, de leur temps,
oui, c'est
ils prennent
ça,
soin.
Puis, c'est ça, ils s'occupent d'eux, puis c'est ça leur travail à temps plein, s'occuper d'enfants. Puis eux, justement, ils savent que c'est pas leur... ils savent que c'est pas nécessairement à long terme. Ouais. Donc, tu sais, j'imagine que le détachement se fait plus facilement. Mais, tu sais, nous, Charlie est arrivé, on...
Vous êtes ses papas, là. Il n'y a pas de question.
C'est ça,
toujours.
Oui.
Puis, tant qu'à t'avoir, comment ça fonctionne avec la DPJ? Ça prend quoi pour être famille d'accueil? Parce que là, tu parles des banques mixtes, tu sais, tu parles d'être famille d'accueil d'urgence. Mais moi, demain matin, je décide que ça me tente de faire ça. Je peux-tu? Ou c'est comme, il y a quand même un bon processus, j'imagine?
Il y a quand même un bon processus. Ce qui est intéressant, c'est que famille d'accueil régulière, puis banque mixte, tu sais, la DPJ, ils veulent que les banques mixtes, ça soit à long terme. Ils veulent qu'à la fin, s'ils t'annoncent que l'enfant est adoptable, que tu l'adoptes. Ils veulent pas que tu dises, en fin de compte, change d'idée. Donc, eux, pour être banque mixte, il faut vraiment que ce soit le couple ensemble qui fasse tout le processus. Tandis qu'une famille d'accueil régulière, ben tu pourrais être famille d'accueil, puis Max pourrait, lui, si vous étiez un couple, mettons, il pourrait se dire, ben t'sais, moi, j'embarque pas là-dedans, puis c'est juste toi qui es évalué, toi qui fais le processus.
OK.
J'ai une question, puis j'espère que tu vas me dire, non, on est en 2026, puis on est rendu ailleurs. On le dit, vous êtes deux papas. J'ose croire, comme je dis, qu'aujourd'hui, ça change rien dans le scénario, que ce soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel. Pour la DPJ, c'est la même affaire.
Bien, c'est une des raisons, en fait, pourquoi on s'est tourné vers ça. Pour la DPJ, ça ne change rien, mais à l'international, c'est pratiquement impossible
d'avoir
un couple homosexuel. Il y a très peu de pays qui c'est autorisé. Nous, c'était aussi des enjeux. T'sais, à l'international, ils demandent un salaire. Des fois, ça prend de l'argent de côté pour l'enfant. Il faut être absolument marié depuis un nombre d'années. Tandis que la DPJ, les critères sont plus en lien avec notre quotidien. Ils vérifient notre salaire, ils vérifient, on a besoin de références de nos amis, nos voisins.
Votre capacité à vous occuper d'un enfant.
Oui, c'est vraiment intéressant comme processus parce que encore là, tu décides demain matin, un couple hétérosexuel, mettons, décide demain matin d'avoir un enfant, mais ils se disent comme, OK, on essaie, puis let's go. Tandis que nous, là, on a fait une entrevue en couple. Après ça, on avait des formulaires écrits avec des mises en situation à répondre. Après ça, on avait des entrevues individuelles, des gens qui sont venus inspecter notre maison. Fait que, tu sais, ça a vraiment solidifié notre couple avant qu'on reçoive un enfant parce que, tu sais, les questions, c'est comme, ah, tu vois l'enfant, il revient d'un contact avec son parent, il est assis sur son lit, comment t'interviens? Puis après ça, eux, ils comparent nos réponses.
OK, parce que vous répondez pas ensemble, vous répondez individuellement. Oh mon Dieu,
oui.
OK, là.
Oui, puis là, tu sais, bon, moi, je suis prof de profession. Fait que, tu sais, moi, intervenir avec les enfants, puis tout ça, c'est
naturel.
Mais
oui.
Mon chum, lui, il était comme, oh, je sais pas trop. Fait qu'il était nerveux que nos réponses concordent pas. J'étais comme, mais. Comme tout parent,
il y a pas de livre,
pas. Non,
c'est ça. Il n'y a pas d'instruction de base.
Exactement.
Je vais revenir. Tantôt, tu disais, pour un an, mettons, on a Charlie pour au moins un an. Mais là, après ça, est-ce que c'est toujours des formulaires à remplir pour l'avoir un an de plus? Parce que là, au total, vous avez comme été famille d'accueil presque 7 ans avant d'officiellement adopter. Fait comment ça fonctionne? C'est-tu toujours à remettre ça à table ou OK, non, vous savez que vous l'avez pour un bout de temps?
Mais le processus normal, tu sais, il y a le placement d'urgence, que là, l'enfant est comme retiré de son milieu. Ensuite, il y a le placement pour un an, pour comme l'évaluation, pour que le parent se réhabilite. Ensuite, il y a eu le placement à majorité. Parce que la situation faisait que pour Charlie, on pouvait se dire, bon, mais jusqu'à 18 ans, elle va rester avec nous, mais toujours dans la DPJ, avec la famille d'accueil, okay, avec des contacts avec le parent. Mais là, il y a comme un switch dans l'intervention de la DPJ, que là, c'est plus, bien là, on s'assure que ça soit des moments plaisants entre l'enfant puis le parent biologique, quand ils se voient. Puis nous, on continue de s'occuper. Puis là, ensuite, bien là, il y a eu le processus d'adoption qui a commencé. Mais sinon, tu sais, c'est rapidement, tu peux savoir où est-ce que ça s'enligne.
Fait que Charlie connaît ses parents biologiques.
Sa mère biologique, oui.
OK. Fait qu'elle est déjà au courant de son histoire, parce que ça, je me demandais, oui, comment tu gères ça aussi, là.
Oui, être au courant. On a vraiment été chanceux pour ça aussi, là. Tu sais, il faut le dire, la mère biologique de Charlie, malgré ses difficultés qui font qu'elle ne peut pas s'occuper d'elle, tu sais, avec nous, elle a vraiment toujours été super. On avait une belle relation de confiance. Et ça a vraiment aidé, ça aussi, au processus. Parce que pour en venir à l'adoption, il faut que le parent biologique renonce à son lien biologique.
Et ça doit être quelque chose.
Ça, fait qu'elle nous a quand même fait confiance de se dire, ben, je pense que oui, ma fille va être bien avec vous. Vous allez bien vous en occuper. Fait que, tu sais, on la remercie. Puis, tu sais, on est encore en contact avec elle. C'est juste que, ben là, avec... c'est tout ça. Là. Moi, c'est plus pour Charlie, t'sais, le développement affectif. Ça peut devenir confrontant. Puis plus elle va avancer en âge, bien, plus elle va comprendre. Puis là, ça peut créer des questions, ça peut créer des émotions à l'intérieur d'elle qu'elle ne sera pas capable de gérer.
Pourquoi quelqu'un renonce à être ton parent?
C'est ça.
Mais oui.
Est-ce qu'on vous prépare à ça du côté de la DPJ?
Pas vraiment. Ils ne nous préparent pas, mais moi, j'ai soulevé souvent mes inquiétudes en tant que père et slash professionnel de la petite enfance. Je leur ai nommé plusieurs fois que ça me dérangeait. Puis, disons, on a quand même eu beaucoup de discussions, moi, puis les intervenants sur le sujet, là, pour être sûr que, tu sais, eux, ils me rassuraient en voulant dire, ben, vous êtes ses papas depuis le début. Oui, elle va avoir ses questions, puis tout ça, mais. T'sais, faites confiance au lien d'attachement que vous avez déjà développé avec elle.
L'image de la DPJ n'est pas que rose, mais de ce que j'entends de toi, il y a quand même... Il n'y a pas juste du négatif. Puis mon but, c'est pas de dire que tout est beau à DPJ puis que tout ce qui est sorti dans les dernières années de déplorable, ça n'a jamais existé, là. Mais on ne peut pas dire qu'il y a que du négatif non plus. T'sais, tu parles des relations avec les intervenants. Il y a quand même du monde à DPJ qui sont là pour les bonnes raisons puis qui font bien leur job.
Bien, je pense qu'ils sont tous là pour la bonne raison. C'est juste que des fois, c'est les moyens qui font que c'est plus difficile. Mais pour vrai, nous, c'était vraiment une expérience positive. Puis je dirais que ça m'a même aidé dans mon métier parce que je sais un peu comment ça fonctionne. C'est que j'ai été capable d'orienter des familles qui avait un suivi DPJ pour dire, ben vous devriez demander ça, ça peut être à l'avantage de votre enfant. Mais tu sais, eux aussi, ils nous pistent dans le sens que, tu sais, ils nous aident à, tu sais, justement, s'assurer de la sécurité de l'enfant, ils s'assurent qu'on stimule, qu'on l'inscrit à des cours, que tout est bien.
Fait qu'il y a un bon suivi serré quand même, là.
Ah, très serré. Mon chum, il dirait trop, là. Mais, tu sais, je veux pas... mettons, l'extrême, là, nous, ça a été pendant la COVID... ça peut paraître bizarre, mais vu que c'est, on parle de la DPJ, mais c'est dans le CIUS. Ouais. Donc, eux, ils doivent appliquer les mêmes règles. Ben, pendant la COVID, c'était les mêmes règles pour les petits milieux comme Maxime, puis moi, puis Charlie, tu sais, qui est juste une petite famille, versus le RPA, qui a comme, je sais pas, 18 personnes dedans. Ouais. Là. Donc là, c'était, est-ce qu'on avait des poubelles extérieures pour jeter nos masques? Ils nous avaient donné on avait comme accès à des tests COVID là, en caisse parce qu'il fallait pouvoir tester tout le monde. Ils nous ont donné des soutes au cas...
Ben, voyons
ça
donc,
nous prenait un plan de compte, au cas où Charlie était contaminé, qu'est-ce qu'on allait faire? C'était vraiment intense, on avait des visites surprises.
Arrête-toi!
C'est la bureaucratie, c'est le... T'sais, tous les intervenants qui viennent sont humains. T'sais, jamais ils étaient comme, ben là, monsieur, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on était comme, ben là,
il utilise juste... le gros bon
oui,
sens.
Oui, c'est
là.
Ça. Là. Il nous disait, ben là, les recommandations, c'est ça, vous devez les suivre.
C'est la machine mais... qui fait que des fois, tu te dis au palais.
Oui, c'est ça, exactement.
Puis là, maintenant que vous avez adopté officiellement Charlie, que vous êtes ses parents, y a-t-il encore un genre de suivi après ou ça, c'est comme la ligne, c'est la ligne d'arrivée, puis là, vous pouvez vivre votre vie avec votre enfant?
C'est terminé. C'est vraiment un processus terminé. C'est tellement terminé, moi, ça m'a troublé, tu sais, parce qu'on est allé plusieurs fois au tribunal dans tout le processus. Puis vraiment, la dernière étape, tu sais, qui prononce l'adoption, c'est la DPJ fait la demande pour nous au tribunal, mais c'est nous qui, les demandeurs. Donc, au tribunal final, il n'y a aucun intervenant avec nous. C'était juste nous, avec la juge, puis Charlie dans la salle, avec la dame qui prenait, la greffière qui prenait les notes, tu sais. Tandis que d'habitude, il y avait toujours un avocat pour Charlie, un avocat pour nous, les tu sais. Pis, beaucoup, beaucoup de gens.
Tu sais, Charlie, bon là, elle doit être rendue aux alentours de 6-7 ans, si je suis bonne en maths. est-ce qu'elle vivait plutôt un stress ou des insécurités pendant ce processus-là? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu te rends compte en allant à l'école que bien, toi, tu as de la visite justement externe souvent, puis la maman biologique, comme tu l'as mentionné. Puis est-ce qu'elle sentait ça par rapport à l'adoption aussi? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait un certain stress chez elle avec le tribunal et compagnie?
Je dirais que sur tout ce qu'on a eu à travailler, c'est plus l'homoparentalité avec Charlie, étant donné que la question revient souvent par ses amis, qui étaient comme hey, « Eh, où toi, ta maman? » Fait que là, c'était plus cette discussion-là à avoir, puis c'était intéressant aussi d'entendre les enfants parler de ça, parce que clairement, c'est ce que leurs parents leur ont dit. Là. Ouais. Fait que des fois, c'est comme « Ah, oh, mais non, on va parler ajuster. Comme il faut, là, parce que ce que ton ami pense, c'est pas tout à fait ça. » Mais Charlie, non, elle vivait pas de stress, elle nous le verbalisait pas. Mais je me rappelle, même tout petite, quand elle revenait des contacts avec sa mère, elle avait comme des réactions. T'sais, elle pouvait être super excitée. Elle se mettait à comme tout vider les armoires de ses jeux, comme si elle redécouvrait la maison.
Okay.
Puis ça, c'est vraiment lié à l'affectif, dans le sens, c'est comme la sécurité de revérifier que, OK, tout est là, je suis chez nous, tout est correct. Elle pouvait avoir des terreurs nocturnes puis des choses comme ça. Mais elle n'a jamais comme verbalisé...
qu'elle n'était pas bien.
Qu'elle n'était pas
bien.
Pour
elle, c'est un peu son quotidien, finalement.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est nous aussi qui enrobait. Tu sais, on disait pas... Ah, c'est une telle, l'intervenante qui vient vérifier. Tu sais, c'est... Ah, elle vient nous visiter. Elle vient nous poser des questions. On va voir si on s'occupe bien de toi.
C'est des amis de la famille.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pensé abandonner le processus parce que, hey, ça a duré 7 ans, là. Puis, tu sais, c'est 7 ans pour avoir l'adoption officielle. Mais, tu sais, tu l'as dit, il y a de la paperasse avant aussi. Vous êtes quand même très encadré. Ça donne-tu envie, à un moment donné, de faire comme, hey, là, pour vrai...
Mais je dirais non, parce que c'est l'attachement de l'enfant. Là. Tu demandais, là, quand on a reçu Charlie, étant donné qu'on avait perdu la première, peut-être qu'on était plus sur le frein, mais le corps humain est bien fait, dans le sens que plus on s'occupe d'un bébé, plus notre corps sécrète des hormones pour qu'on s'en occupe.
Ouais.
Donc même si c'est pas ton enfant biologique, tu vas finir par sécréter des hormones qui vont faire que tu vas vouloir t'occuper de l'enfant, tu sais.
Je te suis.
Donc, tu sais, non, on n'a jamais voulu abandonner, mais j'avouerais que entre notre premier projet puis le deuxième, Maxime puis moi, chacun de notre côté, on y avait pensé, puis on s'en est parlé, puis on a dit, si le deuxième projet marche pas, là, c'est fini, on vend la maison, non, on s'en va en condo, c'est assez, on
puis,
abandonne.
Qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'adopter via, mettons, la DPJ ou un processus avec une mère porteuse, par exemple?
Les mères porteuses au Québec, c'est quand même compliqué. Je connais quelqu'un qui fait le processus en ce moment, puis même si c'est avec une de ses super bonnes amies, puis tout ça, il disait que il faut comme qu'il réinvente la loi. Après ça, je sais qu'en Ontario, il y a comme des tout inclus pour mères porteuses. Là. C'est comme 100 000 $ puis à la fin, tu as ton bébé.
Arrête-toi.
Mais je sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais c'est
ce que j'ai entendu.
Okay. Puis il y a plein... En lien avec l'adoption, là, il peut y avoir des belles histoires, mais il y a des choses horribles. Là, vous chercherez... en tout cas, ça a passé il y a quelques années là, à la télévision, mais aux États-Unis, il y a le rehoming, là, que ça s'appelle. Pis ça, c'est vraiment horrible là, dans le sens que c'est des jeunes qui sont adoptés, puis après ça, ils se font comme remettre en adoption, mais pas de façon légale.
Oh boy!
Fait que vraiment, là, il y a toutes sortes de choses. T'sais, Maxime puis moi, on en a vraiment discuté. Puis moi, je lui avais dit, là, j'envoie des enfants dans le besoin tant qu'à aller aider un autre enfant dans un autre pays. Ça, c'était avant qu'on sache qu'à l'international...
Ça n'aurait pas vraiment fonctionné de toute manière.
Ça n'aurait pas fonctionné. J'étais comme, on peut en aider un ici qui a besoin d'aide. oui, c'est un processus différent, puis que ça prend de beaucoup, beaucoup de choses, puis de discussions, puis d'ouverture, puis c'est de l'inconnu, puis de la patience, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif là, au final.
Et est-ce que vous vous relanceriez dans un processus comme ça pour un deuxième enfant, ou vous, vous en vouliez un, puis ça, tu sais, c'est correct comme ça, c'est ça qu'on voulait, on l'a?
On y a pensé. On a toujours été ouvert au si la mère biologique de Charlie avait un autre enfant, on a toujours dit que celui-là, on le prendrait. Mais on n'a pas envie d'un autre projet. Puis, tu sais, la DPJ, ils sont pas fous, hein? Tu sais, quand ils viennent inspecter ta maison, nous, ils ont fait comme ça, c'est la chambre, parce que ça prend une certaine grosseur. Mm-hmm. Là, ils veulent pas qu'aucun enfant finisse comme Harry Potter dans un garde-robe. Fait qu'ils, tu sais, ils vérifient. Puis là, nous, c'était comme, ah, ça, c'est la chambre. Là, on était comme, ça va être la chambre. Puis là, ils ont vu comme mon petit bureau, que moi, je considère petit. Puis eux, ils étaient comme, ils sortent leur galon. OK, c'est une deuxième chambre. Voulez-vous un deuxième? T'sais, puis ils poussent là-dedans. Puis, t'sais, chose qu'ils ont vu que nous, on allait adopter. Ils étaient comme, vous êtes sûr, vous voulez pas un deuxième projet?
Ils en ont besoin.
Ils en ont vraiment besoin. Mais jamais, tu sais, nous, on s'est dit que si on prenait un autre enfant, t'sais, de un, en même temps que Charlie, ça n'aurait pas été les mêmes intervenants. Les intervenants sont liés à l'enfant, puis non à la famille d'accueil. Donc, on aurait peut-être eu doublement de rencontres. Puis pour Charlie, on s'était dit qu'on voulait la protéger, parce qu'imagine, on lui fait rentrer un frère ou une sœur chez nous, puis après ça, lui, il retourne dans sa famille. Il continue de voir ses parents biologiques, mais elle, elle pouvait plus. Donc là, on s'est dit... On a Charlie, c'est assez pour...
Sais-tu, tu disais, si Charlie avait un frère, une sœur biologique de la mère, c'est ça, on le prendrait. Sais-tu si ce serait comme automatique ou à peu près que c'est chez vous que cet enfant-là irait?
Même pas automatique. Puis c'est vraiment... Mais c'est pas spécial.
Mais
j'aurais
pensé que c'était priorisé.
On s'est fait dire que c'était priorisé, mais ça veut pas dire que le deuxième enfant biologique de la mère serait retiré.
Okay.
En fait, disons, là, t'as déjà un enfant... Puis là, tu es enceinte. Puis pendant ta grossesse, tu consommes à côté là, de la drogue. Bien là, ça, c'est pas bon pour ton fœtus. Mais si ça n'a aucune répercussion sur ton enfant qui est déjà vivant, avec qui tu vis, bien lui, tu le mets pas en danger. Tu mets en danger ton fœtus. Fait que c'est vraiment distinct, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, habituellement, c'est comme un tout là, qui va ensemble. Mais c'est pas parce qu'elle a eu un enfant puis que c'était difficile pour elle... que le deuxième va nécessairement être placé. T'sais.
C'est une drôle de question, mais vous avez eu Charlie, elle avait 3 mois. Est-ce que vous auriez été ouvert à adopter un enfant, par exemple, qui était déjà à 3, 4, 5, 6 ans? Est-ce que c'est des choses qui se font ou il y a comme une peur qui s'installe parce que là, plus conscient?
Bien, eux, en fait, la DPJ, pendant le processus, au début, ils nous demandent nos critères, justement. Mm-hmm. Il y a un peu du en lien avec le background des parents, qui peuvent être des critères pour nous, mais aussi l'âge. Donc, nous, on avait dit 0-5 ans. Mais, tu sais, j'en ai vu des... C'est sûr que ça peut avoir des répercussions. Plus vieux tu l'adoptes, bien, plus il a vécu de choses avant d'être retiré. Plus il y a un lien d'attachement avec ses parents. Fait que là, l'espèce de conflit de loyauté s'installe entre... Bien, j'aime ma famille d'accueil parce qu'ils prennent soin de moi, mais en même temps, j'ai mon parent biologique. Fait que, oui, ça aurait été autre chose, mais tu sais, je pense que Maxime et moi, on aurait été outillés pour le faire. On n'a pas eu à le faire, puis tu sais, je pense que tout le monde qui se lance dans le processus veulent ça un peu. Là, tu sais, comme, ah, tu l'as eu à 3 mois, c'est ton enfant. Mais oui, c'est sûr que quand tu l'as à 4 ans, bien, ça devient ton enfant aussi, mais c'est aussi l'enfant de quelqu'un d'autre à
mais
la base.
C'est ça. La conscience est un peu plus là, mettons. Là.
Exactement.
Écoute, j'ai vraiment trippé sur le fait que tu viennes t'installer ce matin. Ça fait réagir, évidemment. On a des textos qui sont entrés autant sur le Twitch que sur la messagerie. Je vous souhaite vraiment des belles années à venir. Attention à l'adolescence, c'est un gras, un enfant. mais sincèrement, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. C'est des questions auxquelles il y a beaucoup de gens qui n'osent pas répondre. Puis on voit que vous avez une belle expérience. Fait que je trouve que c'est rassurant aussi, Max le dit. Des fois, on n'entend pas les super belles histoires des médias quand on parle de la DPJ. Fait que de voir qu'il y a un volet qui est positif quand même, somme toute, c'est le fun.
Ils cherchent vraiment beaucoup de gens. N'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous questionne. Ça, le tout commence par une séance d'information. Fait que allez-y, ils vont vous parler, vous expliquer tout, puis si ça fait pas, ben vous vous retirez du projet, c'est tout. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'être exploré comme option, autant pour aider les enfants du Québec que pour les gens qui veulent fonder une famille, mais de façon différente.
Gros merci, Pierre-Luc, c'est par le fun.
Merci beaucoup.
Audrey, on t'écoute dans le retour des 14h avec Gravel et Véro. Au retour, Pascal CV vient faire son tour pour sa chronique de fin d'émission et on fait un tour des nouvelles avec le PDG d'Air Canada qui se fait poivrer pas mal à matin, de pas mal tous les bords, même Mark Carney, qui, imaginez-vous donc, n'a pas un rédacteur de discours francophone dans son équipe. Même lui, il poivre le PDG d'Air Canada parce qu'il n'est pas capable de dire un mot. Non, c'est pas vrai, il est capable de dire un mot. Il est capable de baragouiner un bonjour. 11h28 dans le Point de Max, on vient.